Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU, c'est la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et administratrice de l'April. Pour cette nouvelle chronique qui a été enregistrée il y a quelques semaines, Véronique va nous commenter un texte de Benjamin McCohill intitulé « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique ». Je suis en compagnie de Véronique Bonnet, donc vice-présidente de l'April et professeure de philosophie pour sa chronique Partager est bon. Alors, bonjour Véronique.
Bonjour Fred.
Quel sujet vas-tu aborder aujourd'hui dans le cadre de ta chronique ?
Alors, toujours dans les textes de la philosophie GNU, je vais m'intéresser à un texte qui a été intégré à la philosophie GNU en 2013, qui, cette fois, n'est pas de Richard Stallman, mais qui est de Benjamin McCohill, et ce texte s'appelle « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique ». Son titre anglais, c'est « When free software is not better ». Alors, ça part d'une intervention à Libre Planète et l'activiste donc Benjamin McCohill, qui fait partie du staff de la FSF, qui a travaillé au projet Debian, qui est membre des instances de la FSF, est professeur à l'Université de Washington. Et il se trouve que ce texte est dans la lignée de beaucoup de réflexions de Richard Stallman, qui s'interroge sur la différence entre une efficacité pratique. Effectivement, un logiciel peut être puissant, peut être très pertinent, peut avoir des effets tout à fait précis et être utilisable sans pour autant s'inscrire dans une logique d'émancipation. Alors, je dirais que dans ce texte de Benjamin McCohill, il y a déjà la manifestation que Richard Stallman, dans la philosophie GNU, fait appel à des théoriciens. Il ne verrouille pas tout ce qui manifeste une confiance dans les savoir-faire des développeurs, des speakers. Il se trouve que Benjamin McCohill est un speaker, va dans le sens de ce travail collaboratif qu'est le projet GNU. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie GNU une chasse gardée, puisque le logiciel libre a besoin de tous les savoirs pour s'inscrire dans une humanité qui est créative. Le logiciel libre, c'est une affaire sérieuse, hein, comme tu le sais, et donc il faut s'y mettre tous. Alors je vais partir du titre « Quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique », je trouve qu'il y a une grande humilité dans ce titre. Comme le free software met l'émancipation au-dessus de tout, c'est sûr que dans un premier temps, donc comme il faut écrire du code, comme il faut atteindre une certaine maturité technologique, il y a des formes d'efficacité qui sont visées, mais qui, pour autant, sont des moyens, ne sont pas des fins en elles-mêmes. Le logiciel propriétaire, lui, s'inscrit dans une recherche d'efficacité pure et simple, dans une puissance, et même une puissance sur les intelligences, une mainmise sur les usages. Et donc je dirais que se trouve arbitrée, dans ce texte de Benjamin McCohill, une question de priorité. Je vais lire d'abord le tout début de ce texte, qui concerne l'open source. Open source qui a l'air de s'offusquer de la recherche d'efficacité des logiciels rapaces, des logiciels propriétaires, mais qui, en réalité, comme ces logiciels propriétaires, met la question d'autonomie entre parenthèses. Alors je lis, les promesses de l'open source sont de meilleure qualité, une plus grande fiabilité, davantage de flexibilité, un moindre coût et la fin d'une situation permettant à des fournisseurs rapaces de verrouiller leurs produits. Donc il y a, certes, la prise en compte d'une tentative de l'open source de ne pas entrer dans une logique strictement prédatrice. À ceci près, et là c'est la phrase suivante, vous avez de la part de Benjamin McCohill la question « Où est passée la question de la liberté ?» si on vise l'efficacité, après tout, si on ne vise que l'efficacité, pourquoi ne pas s'en tenir à la rapacité du logiciel propriétaire? Et donc, si l'open source se place seulement sur le terrain de la technicité, après tout, pourquoi est-ce que ce mouvement n'avoue pas qu'il est dans la même logique de la recherche d'usages qui ne sont pas nécessairement des usages autonomes, qui vont être des usages peut-être facilités, mais qui ne s'inscriront pas dans la tentative du free software de responsabiliser les utilisateurs. Alors Benjamin McCoill se réfère à Richard Stallman. Aussitôt après, les développeurs de logiciels privateurs ne sont pas forcément incompétents. Parfois, ils produisent un programme qui est puissant et fiable, bien qu'il ne respecte pas la liberté des utilisateurs. Question, et je reviens au titre lui-même, quand le logiciel libre n'est pas supérieur en pratique, ne faut-il pas dire qu'il est en tout cas supérieur au sens d'une exigence qui est éthique, puisqu'au moins le logiciel libre vise la liberté. Voilà ce qu'écrit Benjamin McCoill. L'amélioration en qualité due à la maturation d'un projet n'est que la cerise sur le gâteau. La technicité, la fiabilité sont comme une cerise sur le gâteau, certes très appréciable par les utilisateurs, mais l'essentiel est défini par les quatre libertés de l'utilisateur. D'où la conséquence, Benjamin McCoill montre que l'open source, finalement, n'a pas grand-chose à dire. Puisque ce mouvement est privé de la préoccupation éthique du logiciel libre. Et donc, la majorité des projets libres ne sont même pas collaboratifs. Alors j'ajoute, la majorité des projets dits libres, ceux de l'open source. Et là, on peut se demander à quoi bon l'open source. Alors que dans le free software, la liberté est bien le but et l'efficacité est bien un moyen de ce but. Alors, pourquoi m'attarder sur la conclusion de cet argumentaire qui progressivement rapproche le logiciel open source du logiciel propriétaire en montrant que tous les deux méconnaissent l'autonomie comme finalité ultime? La conclusion est limpide. Dans le cadre du libre, les logiciels de haute qualité existent comme un moyen plutôt que comme une fin en soi. Les développeurs de logiciels libres doivent s'efforcer de créer des logiciels fonctionnels, flexibles, qui servent bien leurs utilisateurs, mais ceci n'est pas le seul moyen de progresser vers la réalisation d'un objectif qui est à la fois plus simple et bien plus important, à savoir respecter et protéger la liberté. Et donc je ferai ici le lien, puisque c'est la philosophie qui est mon activité, ma profession, entre le projet GNU et un projet qui a engagé un certain groupuscule de philosophes. Alors c'était au 18e, c'était le projet de l'encyclopédie. Lorsque Diderot et D'Alembert ont publié les planches des machines, alors des machines à tisser, des outils qui étaient utilisés dans les premières manufactures, bien sûr, il était important que les dessins soient efficaces. Il était important que les outils soient bien représentés, que les articles de l'encyclopédie soient clairs. Bon, il a été vraiment fait appel aux meilleures plumes de l'époque. Beaucoup ont collaboré à l'encyclopédie. Mais je dirais qu'au-delà, l'essentiel de l'essentiel, c'était l'esprit qui réunissait tous ces intellectuels qui ne voulaient plus qu'il y ait d'un côté ce qu'on appelle les arts libéraux, ceux qui étaient réservés à l'élite, hein, ceux qui pouvaient étudier la mathématique, l'astronomie, la musique, et de l'autre, les arts dits serviles, les arts serviles, l'artisanat, les savoir-faire extraordinaires de ceux dont on ne reconnaissait pas la compétence. Et donc, analogie avec le projet GNU, puisque si on représente les mécanismes qui sont dévoilés dans l'encyclopédie, si on amène les contemporains à s'approprier ces savoir-faire, il y a quelque chose des libertés du free software, au sens où les planches de l'encyclopédie permettent d'étudier, connaître, éventuellement améliorer, puisque l'encyclopédie voyage, on voyage en Europe, il y a une très très large diffusion, pour rendre plus performant, plus compréhensible des savoir-faire qui sont extraordinaires et respectables. L'esprit, c'est vraiment le respect. Et donc, je dirais, pour terminer cette chronique, que faire de la liberté ce qui est au-dessus de tout, et qui est même au-dessus de la performance, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute au projet GNU.
Bah écoute, merci Véronique pour cette belle conclusion. Donc, le titre de l'article du professeur Benjamin Maco-Hill, c'est « Quand le logiciel libre dépasse supérieur en pratique ». Il est disponible sur le site de GNU, gnu.org, donc gnu.org, à la fois en anglais et en français, et même dans d'autres langues. Et les références sont également aussi sur le site de l'April. Donc c'était la chronique « Partagé et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Merci Véronique et belle journée.
Belle journée à toi Fred.
Merci.
Donc c'était la chronique enregistrée il y a quelques semaines par Véronique Bonnet, que nous retrouverons sans doute le mois prochain, et je pense en direct dans le studio le mois prochain.